Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM. Bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Et ce soir, j'ai un grand nombre d'invités, mais une invitée principale. L'invitée principale, elle coule devant chez nous, elle coule devant chez vous peut-être. On peut la suivre sur à peu près 250 km entre Paris et Le Havre. Elle fait l'objet d'une série d'expositions, d'un grand projet auquel participent des organismes départementaux, le CAUE de Versailles 78 et le CAUE de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise, ainsi qu'à Nanterre pour les Hauts-de-Seine. CAUE, ça veut dire quoi, Hélène ou alors Odile? J'ai non seulement la scène comme invitée principale, mais aussi les responsables de cette série d'expositions, ainsi que les photographes qui ont conçu et donner évidemment toutes ces centaines d'images que vous allez pouvoir voir dans les différentes expositions. On va détailler tout ça, mais CAUE, je vais poser la question à Odile Drouilly du CAUE du Val d'Oise. Qu'est-ce que c'est ces quatre lettres?
Alors, quatre lettres, effectivement, un acronyme déjà pas facile à prononcer. Donc, ce sont les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Il en existe un par département, donc le CAUE des Yvelines, le CAUE des Hauts-de-Seine et le CAUE du Val-d'Oise qui se sont ici associés pour ce projet, mais il en existe un dans la quasi-totalité des départements français. C'est un organisme qui a un statut associatif, mais un petit peu particulier, puisque ce sont des associations d'échelle départementale créées par la loi, mises en place par les départements, avec une mission très vaste, qu'on peut résumer en deux mots, c'est la défense et la promotion de la qualité du cadre de vie. Parce que lorsqu'on parle d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, on embrasse déjà de très nombreux sujets.
Oui, alors donc vous êtes un des copilotes de ces différents lieux d'exposition. On va aller voir l'autre copilote, et, ou plutôt pilote principal. Voilà, nous sommes sur un très bel avion. En réalité, je vous le dis, on est dans le jardin potager du château de la Roche-Guyon, dans le Val d'Oise, un endroit évidemment historiquement merveilleux, et en plein été comme ça, en pleine floraison, on a un potager sublime qui au pied de, duquel coule la Seine. Alors, je me tourne vers l'autre et la grande initiatrice de ce projet, un projet de photographie pour fixer un peu des images du temps présent tout au long de la Seine. Alors, nous avons donc Hélène Buisson. Hélène Buisson du CAUE des Yvelines. Et Hélène, comment est venue cette idée d'exposition, de série d'expositions qui s'appelle Suivant le fleuve, avec la Seine comme principale intervenante?
Alors, Suivant le fleuve, c'est déjà la valorisation d'un travail photographique qui est l'Observatoire photographique des paysages de la Vallée de la Seine, francilien. Je dis francilien parce qu'il y a son homologue normand qui va de la boucle de Moisson jusqu'au Havre. Donc, ces deux observatoires ont pour finalité de fabriquer une image globale de la Vallée de la Seine et du fleuve de Paris au Havre. Et donc, nous avons saisi l'opportunité de la deuxième biennale d'architecture et du paysage d'Île-de-France, qui se tient à Versailles, pour montrer très vite notre collection photographique au plus grand nombre. Et on a imaginé donc un format qui se déclinerait en quatre lieux, en suivant le fleuve, donc finalement, en prenant attache à Versailles, au sein de l'exposition élémentaire portée par l'Institut Paris Région, donc dans un montage photographique qui présente donc les travaux d'Ambroise Thesnas et Jérémy Léon, mais aussi les travaux de Laurent Cruzic et de François Adam. Et ensuite, trois autres formats portés par les porteurs principaux qui sont les CAUE des Hauts-de-Seine, qui présentent donc les rencontres de l'Observatoire, un itinéraire Paris-Moisson à la galerie du CAUE 92. Ensuite, un format de un petit peu à côté, la collection Terre de Seine, qui est une collection photographique et sonore au sein du musée de l'Hôtel Dieu à Mantes-la-Jolie. Et enfin, l'exposition de un itinéraire Paris-Moisson, donc au château de la Roche-Guyon. Voilà. Il y a un quatrième partenaire dont il faut parler absolument, c'est le service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Il est très important parce qu'il, un petit peu comme l'Observatoire, c'est un service qui a la charge finalement de mener un grand inventaire. Donc, dans la tradition des inventaires photographiques, ces deux regards se complètent. Voilà, à l'heure un petit peu du changement climatique, on voit que enregistrer, observer voilà, est une nécessité pour se préparer aux changements qui vont nous surprendre.
Alors, je parlais d'un personnage, d'une invitée particulière qui est la Seine. Alors, la Seine, elle est un peu comme nous, hein. On est jeune et on est de moins en moins jeune, on est de plus en plus âgé. Les rides se marquent sur nos visages et nos cheveux blanchissent sûrement. Et la Seine, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle a eu une histoire, cette histoire, on essaie de la fixer à différents âges, et c'est un petit peu ça qu'on a demandé, et je vais m'approcher des deux photographes qui sont avec nous, et on a la chance de les avoir avec un certain nombre de très très belles photos, enfin très belles. Je ne sais pas si on peut parler de beauté dans cette exposition qui se déroule dans le jardin potager de la Roche-Guyon, mais j'aimerais savoir quelle a été la commande qui leur a été faite à ces deux jeunes photographes. On a Ambroise Thézenas, qui n'est pas si jeune, semble-t-il.
Non, 50 ans.
50 ans, mais formidable. Les photographes restent toujours jeunes. Et puis Jérémy Léon.
Beaucoup plus jeune, 38 ans, fraîchement.
Voilà. Alors, quelle a été la commande qui vous a été adressée par les deux principales commanditaires de ce projet qui s'appelle Suivant le fleuve? On pose la question d'abord à Ambroise Thézenas.
Les observatoires du paysage, pour des photographes de paysage comme nous, c'est un module qu'on connaissait bien, puisqu'on a suivi d'autres observatoires. Alors, pas nous personnellement, pour nous c'est le premier, mais l'exercice, on le connaissait assez bien. Il y en a eu plus de 300 en France. C'est en effet ce souci, cette volonté de documenter le paysage, de faire un inventaire du paysage, avec cette idée de choisir, de mener un certain nombre de points de vue qui seront ensuite reconduits pour pouvoir comprendre sur les années, les décennies qui viennent, comment le paysage se transforme.
Qu'est-ce que vous entendez par reconduit? Ça, c'est important que nos auditeurs comprennent bien cette démarche dans le temps, hein.
Le principe de l'observatoire, de façon très très simple, c'est de demander à des photographes qui donc portent un regard particulier au paysage, d'arriver à définir des points de vue. C'est-à-dire, ce n'est pas l'idée, parce que d'abord c'est impossible d'être totalement exhaustif sur un territoire donné, mais c'est d'arriver à ce que ces photographes arrivent avec leur savoir-faire, leur vision, arrivent à synthétiser un certain nombre d'éléments marquants dans le paysage qui seront potentiellement modifiés dans les années qui viennent, c'est-à-dire, en effet, alors c'est la nature, mais c'est l'urbanisme, etc. Afin que sur ce territoire donné, on puisse, comme je disais avant, arriver à comprendre comment les choses puissent évoluer. C'est un regard qui est un regard documentaire, et c'est un regard qui se doit aussi, qui se veut artistique.
Ah ben voilà, on va poser la question à Jérémy Léon, le jeune artiste qui est dans ce duo là, ce tandem de photographes. Il y en a un qui porte le trépied, un peu comme les anciens peintres qui allaient sur le motif, et puis se concertent pour savoir à quel plan exact. Alors on parle donc de récit, on parle. Est-ce qu'il y a un regard poétique dans votre démarche, Jérémy?
Dans notre démarche, je dirais, bien sûr, il y a un regard poétique. C'est avant tout un exercice presque scientifique d'analyse du paysage, mais en même temps, c'est notre regard. Ça sera toujours notre regard, et c'est en photographie, chacun regarde différemment. Nous, on a posé notre regard sur la scène, qui vaut pour notre analyse, pour notre expérience du territoire. De mon côté, moi, Ambroise et moi, nous avions déjà travaillé sur la scène, chacun de notre côté, donc on a déjà notre expérience du territoire. On a chacun aussi notre parcours de photographe. Et en fait, moi, je suis natif de Vernon, pas très loin d'ici, pas très loin de la Roche-Guyon. Et donc j'ai cette sensation de connaître la scène par son côté sauvage, son côté... ce qui m'a le plus intéressé, moi, avant tout dans la scène. Et là, on s'est confronté à d'autres univers, à l'urbain, que quand moi, je connaissais un peu plus.
Quand vous dites j'ai couru le long de la Seine dès mon enfance, vous alliez quoi, à la pêche, vous alliez faire du canotage, Jérémy?
Non, c'est assez drôle justement parce que c'est vraiment les problématiques de notre époque. Je suis né, donc j'ai 38 ans, je suis né vraiment à cette époque où commence presque la désindustrialisation, et ce que j'ai vécu en premier sur la Seine, c'est des friches en bord de Seine, donc des industries qui commençaient déjà à péricliter, et c'est mes terrains de jeu d'enfance, c'est comme ça que j'ai approché la Seine. Et ensuite, ça a été des balades, peut-être sur les coteaux, dans des espaces plus sauvages. Et ce qui m'a déclenché, parce que moi, j'ai fait un travail personnel sur la Seine auparavant cette commande, ce qui a déclenché vraiment mon intérêt pour la Seine en tant que photographe, c'était les allers-retours entre Paris et Vernon par le train, où on voit ces paysages défilés, où il se passe des choses en termes de... Visuellement, il se crée des images mentales, en fait, des impressions du paysage.
Elles étaient quoi, vos images mentales, à ce moment-là?
C'était différentes images, c'était des images au couchant, au lever, des images de cru, des images des différents états climatiques, les différents états atmosphériques de la Seine, en fait, qui créent en fait des représentations et des imaginaires.
C'est l'imaginaire. Et vous avez su aujourd'hui les retraduire avec vraiment ce projet-là de suivant le fleuve sur à peu près 120 kilomètres, hein, jusque dans les méandres de la Seine qui nous amène à Moisson. Moisson étant, je vais le faire préciser par Hélène et Odile, Moisson étant une sorte de mi-parcours, hein, entre Paris et Le Havre. Sur le plan topographique, Odile, est-ce que vous pourriez nous préciser qu'est-ce que les photographes, là, qu'on vient d'entendre et qu'on reprendra tout à l'heure, Jérémy et Ambroise, ils ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres dans les méandres. Et sur le plan topographique, entre Paris, peut-être, je ne sais pas, à quel endroit vous situez Paris, vous, par rapport à la Seine.
Le point de départ là, de notre itinéraire, c'est vraiment la sortie de Paris, puisque la première photo, c'est le pont du Garigliano. Voilà. Mais pour revenir à votre question sur la boucle de Moisson, vous venez de le dire vous-même, ce qui caractérise la Seine, c'est ses méandres. On la représente souvent par un petit serpent avec des jolies boucles. Eh bien, chaque boucle a un nom, et ici, on est dans la boucle de Moisson, qui se trouve juste en face du château de la Roche-Guyon. Et le château de la Roche-Guyon étant lui-même un petit peu la frontière, je vais dire, avec la Normandie. En tout cas, l'extrême confin du territoire du Val d'Oise et donc de l'Île-de-France, de ce côté de la région.
Un endroit que donc Jérémy, enfant, a parcouru le long de la Seine, que Ambroise aussi, mais nous aussi, je pense que un certain nombre d'entre nous et vous qui nous écoutez, vous avez dû parcourir et vous avez petit à petit vu le paysage changer. On va continuer à parler de ce paysage avec Hélène Bouisson, avec Odile Drouilly, avec Ambroise Thesnas et avec Jérémy Léon. Mais auparavant, on va écouter un peu de musique. Hein. On va le long de la Seine, on va rêver peut-être. On va écouter votre choix. Voilà, nous sommes toujours dans le jardin potager de la Roche-Guyon pour notre émission Entre chiens et loups cet été, dans l'exposition qui a lieu actuellement, qui a pour sujet principal la Seine et son imagerie actuelle. Alors on est avec Hélène Bouisson, avec Odile Drouilly, avec Ambroise Thesnas et Jérémy Léon. Je vais me tourner. On a parlé un petit peu du récit que se sont construits les deux photographes. J'aimerais qu'on aborde. On a parlé de poésie. J'aimerais qu'on aborde avec Hélène Bouisson l'aspect un peu politique. Et on va définir ce que ça signifie. Hélène, comment c'est construit ce projet-là et quel est son impact politique ou son origine politique?
Ouais, d'abord, je vais juste repréciser. Ce projet, c'est comme si c'était une tresse avec trois bras. D'abord, il y a un bras artistique, porté donc par les photographes. Il y a un bras, on peut dire, technique, porté par les porteurs, en fait. Et puis, il y a un bras politique, en fait. Et c'est la, comment dire, c'est le tressage de ces trois brins qui fait l'intérêt du projet. Et la réussite du projet, c'est que finalement, chacun des modes, finalement, puisse entendre le mode de l'autre. Et puis, fabriquer, du coup, une image globale de la scène qui s'adresserait à ces différents mondes, en fait. Voilà. Et qui rendrait, enfin, voilà. Et donc, l'observatoire, cette commande, en fait, elle est née, à l'occasion d'un voyage, qui sont les voyages ateliers organisés par l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, dans le cadre d'une mission que lui a confiée la délégation au développement de la vallée de la Seine, le préfet Philizot, qui était le préfet en charge de cette vallée à l'époque, pensait que, au-delà du développement économique, pour faire exister la vallée de la Seine, il était impératif de faire exister la notion du paysage. C'est pourquoi il a confié cette mission, donc, à l'école du paysage pour animer le réseau des acteurs. Puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que la vallée de la Seine, donc, c'est une entité géographique commune, mais qui est divisée en autant de structures administratives qui s'égrènent tout le long, et que finalement, chacun a son bout de Seine, mais que la Seine, dans son entièreté politique, n'existe pas. C'est pourquoi la première vocation de notre observatoire, c'est d'une certaine manière, au travers des valorisations, d'en produire une image globale. Puisque finalement, en fait, c'est un être qui est composé de pluralité, et c'est précisément cette pluralité que les photographes ont fait ressortir. Donc la dimension politique du projet, c'est de faire exister une unité au sein de la diversité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la notion politique du projet.
Voilà. Oui, c'est une vision. Voilà. C'est une vision très large, je dirais, du sens politique et qui regroupe à la fois des problématiques économiques, géologiques, géographiques, et puis une anticipation sur le devenir de cette entité qu'est la vallée de la Seine.
Parce que on se rend compte qu'en ce moment, chaque fleuve est en train de constituer son parlement. Il y a le parlement de la Loire, le parlement du Rhône, le parlement de la Garonne, enfin toutes ces, finalement, ces entités géographiques mises en pièces par toutes les, d'une certaine manière, les structures administratives qui les bordent, ont la nécessité de faire exister le fleuve comme un être à part entière, en fait. Et cet être à part entière, c'est vraiment ce que je dirais que l'Observatoire orthographique des paysages avait de la Seine, c'est finalement la première étape de l'instauration de cet être à part entière. Ensuite, il y aura d'autres écritures, enfin d'autres choses qui viendront, mais c'est comment faire exister le fleuve en tant que tel. Voilà.
Vous en parlez comme d'une personne, un peu comme si la nature autour de nous était aussi une personne avec ses droits.
Voilà, alors ça, c'est, on en discute beaucoup. L'identité juridique des fleuves, leur doter une capacité finalement à exister, à être un être de droit, à revendiquer des droits et des devoirs. Voilà, donc tout ça, c'est un mouvement qui est en train de naître partout. Donc nous, on n'y est pas encore sur la vallée de la Seine, hein, parce qu'il y a de tels intérêts politiques et économiques que finalement faire exister le droit de l'eau, des poissons, des plantes et des animaux, on n'y est pas encore, parce qu'il y a encore la dimension économique qui est extrêmement prégnante. Mais je dirais que notre observatoire photographique des paysages et la pluralité des sujets qui ont été traités par les photographes, parce que finalement, dans leur scénette, dans leur cadage, ils ont invité les animaux, ils ont invité les oiseaux, ils ont invité tous ces êtres vivants avec lesquels nous partageons notre territoire. Voilà, donc ils ont ouvert la vue au territoire des autres. Voilà, et donc ça, c'est le premier pas de l'instauration de notre parlement.
Voilà, une ouverture assez étonnante et passionnante, je trouve, de la part d'Hélène Buisson du CAUE, des Yvelines à Versailles. Mais alors du coup, étant du Val d'Oise, on va se reporter vers Odile Drouilly. Est-ce que vous avez la même approche à la fois environnementale et fixant, je dirais, le portrait actuel de la scène. Est-ce que vous avez cette approche à la fois juridique et politique dans le Val d'Oise ?
Alors Hélène vient effectivement très bien de décrire l'ambition de ce projet, qui est effectivement très grande, puisque ce sont des débats actuels, que ce soit sur la Loire, le Rhône, etc. C'est vraiment un débat de société, un regard vis-à-vis de la nature. Donc c'est bien notre ambition. Mais on s'est servi de cet outil, parce que les observatoires photographiques des paysages existent depuis plusieurs années. Ils sont le produit du ministère de la Culture, des services de l'État. Et donc c'est une procédure qui est au départ relativement cadré. Il y a un cahier des charges extrêmement précis sur la manière dont on doit mener un observatoire des paysages. Mais nous avons saisi cette opportunité justement pour essayer d'aller au-delà de cette réalisation avec des ambitions plus grandes et aussi de les rattacher à ce qui constitue le cœur des missions des CAUE. Parce que dans les CAUE, ce qu'il faut entendre en premier, c'est ce mot de conseil qui est vraiment l'essence même de nos missions. On est vraiment auprès de l'ensemble des acteurs d'un territoire, qu'il s'agisse des élus, des habitants, des enseignants, enfin de tous les publics. Et ce qui constitue un petit peu, j'allais dire, l'ADN des actions des CAUE, le point de départ quasiment de toutes nos actions, que ce soit un conseil aux communes, que ce soit une action dans une école, que ce soit, c'est l'observation. Donc cette observation, c'est vraiment le point de départ, parce qu'on ne peut pas agir, même à l'échelle de la transformation de son habitat, de l'évolution de la commune, on ne peut pas agir si on n'a pas compris son territoire.
Qu'est-ce que vous entendez par observation ? Parce que c'est quoi ? C'est ne pas abîmer ou bien se prémunir ? Est-ce qu'il y a un effet de prévention ? C'est une observation qui à quel but ?
Non, l'observation, c'est déjà faire l'état de ce que l'on voit. Et l'objectif des observatoires photographiques des paysages, c'est pas de faire un très beau catalogue de photos magnifiques sur la Seine. Ça, bien entendu, Ambroise et Jérémy auraient pu nous produire des photos magnifiques, mais la commande n'est pas celle-là. C'est bien de regarder le territoire sous tous les angles, qu'il soit économique, écosystémique, les usages aussi, les usages des bords de Seine. Et au travers de certaines photos, on voit bien ces usages licites, voire illicites, mais qui sont néanmoins présents sur le territoire. Et donc, pourquoi je dis que observer, c'est le point de départ de toute action ? Parce que c'est vraiment à partir de ça qu'on peut comprendre à la fois l'origine d'un territoire, sa géomorphologie, la puissance de l'eau, comment ce territoire s'est construit, pourquoi les villes se sont implantées à tel endroit, pourquoi il y a des franchissements à tel et tel endroit. C'est ça qui a structuré le développement économique et humain du territoire. Et donc, c'est observer pour accumuler aussi des connaissances de manière à être en capacité de les transmettre aux différents interlocuteurs et en fonction des projets. Donc c'est vraiment ça. Et ensuite, c'est ce qui doit permettre à ces porteurs de projets d'agir par eux-mêmes. Ce n'est pas le CAUE qui va leur dire « voilà ce qu'il faut faire ». C'est justement en transmettant ces éléments de connaissances historiques, géographiques, que l'on doit être en capacité de prendre une décision qui respecte le territoire dans toutes ses dimensions.
Alors voilà qui est vraiment très intéressant. Du coup, je vais me tourner vers nos amis photographes, puisque on vient de parler là, à l'instant même, de la source de la commande, avec l'observation de ce qui est aujourd'hui à un moment T. Vous aviez sans doute vous-même, Ambroise Tesnas, l'expérience de la Seine. On a évoqué celle de Jérémy tout à l'heure, natif de Vernon. Mais vous en aviez une autre expérience, peut-être plus en amont, du côté de Paris. De Paris, de la Défense et de toute cette partie des Hauts-de-Seine, justement, qui porte bien son nom, les Hauts-de-Seine.
Oui, j'avais mené un travail de commande en 2017, dont l'idée était d'aller sur les traces de Cartier-Bresson, qui lui avait photographié la Seine, mais plutôt du côté Paris et en bordure, mais sans aller jusqu'à Mantes. Mais c'est un espèce de parallèle comme ça dans le cadre du mois de la photo du Grand Paris, avec l'idée de parcourir la Seine de façon assez libre. Sans les contraintes qui ont été les contraintes après de l'observatoire, puisque je pouvais travailler, l'idée n'était pas de reconduire des points de vue, mais plutôt de porter un regard sur ce paysage. Et c'était une exposition à l'Hôtel Dieu, donc à Mantes-la-Jolie, qui a eu lieu en 2017. Mais quand on nous a demandé, quand l'appel d'offres a eu lieu et qu'on s'est dit qu'on voulait y répondre, même si on connaissait tous les deux le territoire, je crois que ce qui nous intéressait, c'était évidemment de parcourir ce territoire-là parce qu'on le connaissait un petit peu, mais c'était surtout, et je reviens peut-être un peu sur quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais sur le fait de s'inscrire dans une histoire de la photographie française qui est assez particulière. La photographie, elle est née en France. Il n'y a pas vraiment une école française de la photographie, mais par contre, il y a une tradition de l'inventaire qui est très forte.
C'est sur le plan historiographique.
Oui, c'est-à-dire que les premiers travaux photographiques, et en l'occurrence souvent financés par l'État, c'est d'arriver à rendre compte du patrimoine. C'est un travail très patrimonial sur des monuments nationaux, et puis après sur des missions qui sont devenues dans l'histoire de la photographie de paysage des missions qui ont marqué la photographie, qui sont en France, mais qui ont été aussi en Égypte, etc. Et qui sont en fait un travail de documentation, qui ne sont pas un travail artistique, vraiment un travail de documentation. Et en l'occurrence, cette approche plus artistique sur le paysage, finalement, elle a un peu échappé aux Français, puisqu'elle s'est retrouvée liée à l'histoire de la conquête de l'Ouest américain et sur la transformation des paysages. Et aujourd'hui, finalement, cette approche du paysage que nous-mêmes, nous avons en tant que photographes, elle mixe un peu tout ça. C'est-à-dire le fait de revendiquer la volonté de documenter l'espace et d'en garder trace, et en même temps de travailler sur la métamorphose des choses. Et donc c'est vrai que pour nous, quand on a choisi de travailler dessus, c'était évidemment la Seine parce que c'était un territoire qui était cher au cœur de Jérémy et puis très proche de son travail de recherche photographique, puisque comme il l'a dit lui-même, il travaille dessus depuis déjà une dizaine d'années. Mais c'était aussi l'idée d'une certaine façon de s'inscrire un peu dans cette tradition. En sachant, et j'en termine, que c'est aussi assez rare pour des photographes, parce que finalement la photographie, beaucoup de gens veulent être photographes aujourd'hui. C'est un métier qui fascine beaucoup de gens, et en même temps c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui subit de plein fouet la crise, et beaucoup la moitié des photographes vivent avec moins que le SMIC. Il y a peu finalement de commandes d'État. Et l'État est assez peu prenante dans les commandes aux photographes. Et les observatoires, comme d'autres, il y a eu quelques éléments là qui ont changé dernièrement avec des commandes du ministère de la Culture, mais les observatoires sont finalement des lieux de commande pour les photographes qui sont assez particuliers. C'est-à-dire que c'est financé par des fonds publics dans une volonté de s'inscrire, comme je le disais, dans la tradition des missions héliographiques ou de la data, c'est-à-dire des choses qui ont vraiment marqué le territoire.
Alors, cette histoire qui est finalement assez longue, qui a plus d'un siècle, et vous en êtes un peu les héritiers, hein, on vient d'entendre la profondeur dans laquelle votre travail s'inscrit avec Ambroise Thesnas à l'instant, mais je me tourne vers Jérémy Léon, qui a aussi cette approche à la fois technique, historique, esthétique, et la connaissance bien sûr de la Seine et de cet environnement. Est-ce que vous aviez déjà des idées préconçues avant de démarrer ce programme, Jérémy? Est-ce que vous aviez déjà des endroits repérés, repérables, qui vous tenaient spécifiquement à cœur, ou bien est-ce que vous avez découvert, vous remis les compteurs à zéro et reparti avec un œil neuf?
Il y a plusieurs choses. Pardon. On connaissait tous les deux bien le territoire, mais en effet, on a envie de se faire surprendre par les paysages. On a cherché à se faire surprendre tout au long de cette commande, tout au long de ce périmètre d'observatoire. Il y avait forcément des incontournables à photographier, la confluence avec l'Oise, la Défense, les cheminées des Porcheville, des horizons qui sont constants, surtout qu'on est sur une géographie qui est assez plane, donc il y a des horizons qui sont assez répétitifs. Mais on a essayé justement de se faire surprendre par le paysage. On partait souvent de Paris, on se garait avec la voiture, on avait repéré souvent avec des vues satellites ou des cartes IGR, on a repéré des endroits et après on marchait 5 km, 10 km pour chercher les endroits. Alors souvent du grand paysage, mais aussi parfois un peu plus serré, un peu plus dans l'anecdote, un peu plus dans l'élément, en fait, le punctum, comme on dit en photographie, qui fait sens dans la photographie, en fait, ça peut être un vol d'oie au-dessus des cheminées de Porcheville.
Oui, il y a d'ailleurs une photo absolument sublime, là, tout à l'heure, qu'on voyait et qui fait partie de cette série avec des oies sauvages qui survolent les cheminées de la centrale de Porcheville.
Donc voilà, et en même temps, il s'est passé deux choses, parce que l'observatoire, c'est un protocole assez strict, je ne me souviens plus si on l'a vraiment dit, mais il faut un trépied pour faire les photos, il faut être à hauteur d'œil, il faut être dans l'espace public.
Très important. Alors, très important parce que, en fait, dans ce que disait Ambroise et ce que vous venez de nous rappeler, c'est une commande avec des contraintes très particulières. Il faut qu'on puisse refaire cette photo dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans.
Exactement. Et la frustration qu'on a pu avoir, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces privatisés en bord de Seine, par les industries, mais aussi sur les coteaux, par les habitations. Il y a beaucoup de vues qu'on peut dire bloquées. Et il a fallu se dépêtrer un petit peu de ça. Et l'horloge sonne, il est quelle heure ? Il a fallu se dépêtrer un petit peu de ça. Et on l'a fait, on a pris du plaisir à le faire. Et on a un peu outrepassé les règles de temps en temps. Parce qu'il y avait certaines vues qu'il fallait faire incontournables, qui nous paraissaient en tout cas incontournables, des éléments et des terrains qui allaient changer, qui étaient des friches, mais qui allaient devenir des espaces publics. Donc voilà, on est passé au-delà des barrières.
Un tout petit point technique pour les auditeurs qui adorent la photo, et Dieu sait si au bord de la Seine, il y a des milliers de clichés qui sont faits tous les jours. Sur le plan technique, vous aviez un simple appareil réflexe. Comment vous avez travaillé très très rapidement?
On a privilégié de travailler en digital pour une reconnexion plus facile, tout simplement. Et deux optiques, ça c'était très important pour nous. Deux distances, deux focales, comme on dit, un 35 mm et un 45 mm pour rester dans une vision humaine, proche de la vision humaine, ne pas jouer avec des téléobjectifs qui peuvent être plus longs, qui peuvent écraser les plans, qui peuvent être jolis esthétiquement, mais qui sont moins dans une vision humaine et un respect de la vision humaine du paysage, parce que c'est vraiment la contrainte de l'observatoire.
Très intéressant. Alors, on va s'interrompre quelques secondes avant de reprendre notre conversation, mais on va écouter un peu de musique, on va écouter quelque chose de très très cool, très agréable. Voilà. Restez avec nous, on reprend notre exposition dans quelques secondes.
Looking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Lift my soul.
See you.
toujours sur IDFM dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Hélène Bouisson, de Odile Drouilly, de Ambroise Desnas et de Jérémy Léon dans le jardin potager du château de la Roche-Guyon, un endroit superbe où coule la Seine. Et la Seine, c'est vraiment votre personnage fétiche. Hélène Bouisson, vous êtes architecte, vous êtes spécialiste des observatoires de la photographie, et puis vous êtes aussi une historienne des techniques. Vous avez un certain nombre de cordes à votre arc, mais pour ce projet suivant la Seine, vous avez conçu un ensemble de données. Comment tout ça vous est venu et à quand ça remonte? Là, je pose la question à Hélène Bouisson. Oui, oui.
Donc le travail a commencé véritablement en 2019, puisqu'il s'est agi d'abord de réaliser un appel d'offres. Donc comme on s'est mis dans les pas des homologues normands qui avaient mis en place un appel d'offres pour la sélection des photographes, dans l'idée d'une convergence, on a repris un petit peu leur mode opératoire, et donc on a mis en place cet appel d'offres fin 2019. Donc il y a eu 23 candidats qui ont été auditionnés avec un jury constitué, enfin toutes les étapes bien respectées, et à l'issue de quoi les photographes sont partis arpenter. Donc c'était début avril 2020. Ça, il y a donc à peu près il y a plus de 2 ans. Donc ces 2 ans de travail, je crois que c'est à peu près, Ambroise, tu m'avais dit 50 jours d'arpentage, 50 journées d'arpentage à peu près. 60 journées d'arpentage, donc c'est considérable, avec 400 prises de vue qui ont été prises, et nous avons mis en place toute une série de sélections, parce que la difficulté finalement, c'était finalement d'opérer les choix parmi cette très très grande quantité, et donc nous, pour finalement aboutir à un récit itinéraire de 111 points, donc les 111 points qui sont présentés aujourd'hui. Donc la vocation de ces points, de ce récit itinéraire, c'est d'abord donc de fabriquer cette image globale du fleuve, et après les valorisations, nous allons passer à une deuxième modalité de choix qui sera de retenir 40 points qui seront refotographiés à l'identique et à pas de temps régulier. Donc pour choisir ces 40 points, nous n'avons pas encore totalement finalisé le mode opératoire. On sait qu'on devra donc se mettre en convergence avec les Normands. C'est pour ça que les 40 points devront être représentatifs des 4 récits que nous menons en commun. Si je schématise, c'est la question des terres, la question de la Seine comme une méga machine économique, mais aussi naturelle. Enfin, on voit que l'érosion du fleuve, tout ça, enfin, le drainage du fleuve, enfin, tout la question du réglage de l'hydrologie, enfin, tout ça est que le fleuve est finalement plus si naturel que ça. Le troisième récit, c'est la question des écosystèmes, et enfin la question de la Seine comme monument à la fois géographique, patrimonial, paysager et photographique. Voilà. Donc il faudra que ces 40 points soient représentatifs de ces 4 récits, mais qui donnent aussi à lire les projets de la délégation au développement de la vallée de la Seine, c'est-à-dire qu'ils vont être choisis pour voir en quoi finalement ils peuvent nourrir les réflexions de cette délégation.
Donc la Seine dans une prospective à la fois environnementale, économique, d'aménagement évidemment, et de son évolution, puisque aujourd'hui on est très sensibilisé au problème de réchauffement climatique. Alors je ne sais pas si ça vient jouer dans l'observatoire de la photo, et si on fixe aujourd'hui des images qui peut-être dans 20 ans seront surprenantes. Je me tourne vers Odile Drouilly. Est-ce que juste cet aspect du réchauffement climatique entre dans votre analyse de conseil auprès des collectivités ou auprès des particuliers, au CAUE du Val d'Oise?
DCIE en général, parce que nous partageons les mêmes missions. J'ai insisté tout à l'heure sur la mission de conseil, mais un autre volet très important de nos missions, et c'est le terme que vous venez d'employer, c'est la sensibilisation. Et évidemment, c'est un mot un petit peu valise dans lequel on peut mettre de très très nombreuses actions, mais ça nous arrange, parce que en fonction de nos territoires et des publics auxquels on veut s'adresser, on peut imaginer toute une déclinaison d'actions. Donc, cet observatoire, pour nous, c'est un outil formidable parce que on va pouvoir s'en servir selon les thématiques qu'on va vouloir mettre en avant. Si c'est justement la fragilité des écosystèmes, leur adaptation au changement climatique, la sensibilisation des élus à la fragilité des territoires des bords de Seine, eh bien, on va pouvoir, au travers d'une sélection de ces issus des différents récits dont Hélène vient de parler, construire peut-être des débats avec des décideurs, des élus, et orienter leur action comme ça.
Oui, pardon. Il se trouve qu'au bord de n'importe quel fleuve, de n'importe quelle rivière, il y a de la vie, et de la vie humaine. Et cette vie humaine, on espère la trouver de la meilleure qualité possible et de la plus grande durabilité possible. C'est un peu... Le fond de votre action, Odile Drouilly.
Tout à fait, durabilité et aussi préservation des usages, parce que quelquefois on a un regard, on peut avoir un regard assez simpliste des usages qui sont faits de la Seine, mais lorsqu'on vit sur un territoire et qu'on observe vraiment, qu'on observe à tous les temps, du jour, du week-end, enfin voilà, comment ces espaces sont appropriés par des jeunes, par les personnes âgées, par les familles, eh bien on change et on nourrit justement la connaissance de celui qui va prendre la décision.
On a une impression souvent au bord de la Seine, vu que l'Île-de-France a une capacité d'attrait économique très important, et que évidemment, être au bord d'un fleuve, à la fois sur le plan de l'agrément, c'est forcément très bien, mais aussi sur le plan industriel. Et on a pu voir des sites extrêmement abîmés par certaines industries. Est-ce que vous conseillez également à ce niveau-là pour prémunir les collectivités de ces impacts qui peuvent être un peu délétères sur le paysage.
Oui, et c'est toujours, non pas en termes de préconisation, mais vraiment en termes de transmission d'éléments de connaissance, parce que quelquefois, on l'a déjà entendu, les gens disent « Oh ben, à cet endroit-là, c'est formidable, il n'y a rien ». Mais ça n'existe pas, une zone blanche. Ça peut être justement des écosystèmes particuliers, ça peut être une ressource pour certaines personnes qui viennent cultiver de manière des fois spontanée, hein, c'est pas forcément encadré. Et il y a plein d'usages spontanés comme ça, si l'on parcourt finement justement les bords de Seine, qui doivent être connus et partagés pour une meilleure prise de décision. Et c'est vraiment... ces outils de sensibilisation que sont les photos permettent de tirer quantité de fils. Et lorsque là, je parlais plutôt des élus, mais nos missions de sensibilisation, c'est aussi toucher tous les publics. C'est-à-dire, ça peut être le jeune public, notamment en s'adressant dans le cadre scolaire ou périscolaire, à une sensibilisation à ce qu'est la lecture du paysage. À donner à chacun, à chaque futur citoyen, quelques outils qui lui permettent d'être plus attentif, quelquefois, à des petits détails, mais petits détails qui, petit à petit, contribuent à une évolution des paysages. Voilà. Quand vous avez, dans un village qui, peut-être, au premier abord, n'a pas été transformé, mais si, grâce à une reconduction photographique, on compare ce village, on s'aperçoit que les clôtures ont peut-être été modifiées, que certains détails des modénatures de façade ont disparu avec un ravalement un peu hâtif, que des compteurs électriques ont envahi un petit peu l'espace public. Certes, voilà, c'est ces petites choses, et c'est en observant qu'on voit ça.
Voilà, être les témoins à un temps donné, en 2022, de ce qu'est la scène. Je voudrais redemander à nos deux photographes là qui ont cette exposition ici dans le jardin de la Roche-Guyon, du château de la Roche-Guyon, une centaine de clichés, avec une exposition aussi et un journal de vos arpentages, comme vous dites, 60 jours au moins d'arpentage et de repérage et de prise de vue. Je voudrais leur demander, parce que on a abordé un peu la question technique, mais le point de vue, le cadrage du photographe, c'est essentiel, ça. Vous n'allez pas me démentir, Ambroise.
Oui, ça fait partie un peu, ça c'est la définition même de notre travail. Le point de vue, comme l'a dit Jérémy, enfin sur la hauteur, c'est cette contrainte du trépied et de la hauteur d'homme. Donc en gros, toutes les photos sont faites en gros à 1m70. Et comme l'a dit Jérémy aussi, l'idée c'est pas de tromper le regardeur en essayant d'utiliser des grands angles, des téléobjectifs, c'est de photographier en gros la vision humaine et on s'accorde à dire que c'est en gros du 35 mm. Le point de vue sur le paysage, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est un peu indéfinissable et qui fait partie d'une vie de photographe, c'est qu'en fait, on est photographe, en gros depuis vingtaine d'années respectivement. C'est aussi le fruit d'expériences, de vécu, de confrontation à d'autres paysages, à d'autres lumières, et en fait ça c'est ce qui fait qu'un photographe va s'appliquer à regarder telle chose plutôt que telle autre, etc. Et ça c'est un peu indéfinissable, et je crois que ça fait partie d'ailleurs de l'histoire un peu de chacun des photographes. Après avoir un point de vue sur le paysage dont on parle aujourd'hui, c'était d'une part de rester fidèle à la mission donnée, hein. L'idée c'est pas de faire notre paysage, c'est d'arriver à faire à photographier un paysage qui puisse être partagé. Nous on fait pas ces photos pour des spécialistes, on fait des photos pour des gens qui vont y réfléchir, mais aussi bien pour le grand public, pour des scolaires. C'est d'ailleurs toute l'idée et l'intérêt de l'exposition dans le potager de la Roche-Guyon, c'est que c'est un espace qui est ouvert au public, qui est gratuit, et donc potentiellement accessible à des gens qui ne s'attendent pas du tout à aller venir voir une exposition photographique. Nous, on aime bien cette idée aussi du fait que ce soit assez démocratique. Et pour finir sur le potager, enfin sur la Roche-Guyon, pardon, à l'intérieur, c'est autre chose, c'est plutôt la fabrique des choses. C'est d'essayer de comprendre un peu comment les choses ont été faites avec un film, un making-of qui a été fait par un réalisateur qui s'appelle Sylvain Martin sur nous au travail, pour essayer de comprendre comme ça un peu comment les choses ont été organisées, et avec la projection d'une centaine d'images, alors que dans le potager, il n'y en a qu'une vingtaine.
Alors très bien, donc deux lieux assez emblématiques, le potager qui est très très animé par vous, mais aussi par les oiseaux qui nous entourent. On va peut-être donner la parole à Eliette qui est en stage, qui est stagiaire en communication auprès du conseil d'architecture et d'urbanisme de Versailles, auprès de Hélène Buisson. Vous êtes en quelle formation, Eliette ?
Alors, j'ai suivi une formation en art numérique et études visuelles. Donc, on reste dans l'esprit de la photographie, de l'imagerie. Et j'ai décidé après de me spécialiser plus en communication dans tout ce qui est événements culturels, institutions.
Alors, comment ça se passe, là? Vous avez accompagné sur le plan de la communication le travail qui a plusieurs années derrière lui. Vous avez plongé dans l'univers administratif et de la communication du département. Comment ça s'est passé?
Je suis arrivée en cours de route où toute la programmation était déjà établie. Je suis arrivée au moment du grand départ des expositions. Donc ça reste une programmation très dense en termes d'événements où on s'y fait au fur et à mesure en soi. Mais ça reste une très bonne expérience avec, encore une fois, une riche programmation, des décors juste magnifiques, où là, on est au cœur du potager, on observe une scénographie incroyable avec les photographies. Donc, en arrivant en cours de route, c'est vrai qu'on perçoit une très dense programmation, mais une fois le concept expliqué et compris, ça va tout seul, ça suit le cours du fleuve.
On suit le cours du fleuve, voilà une très belle définition de ce travail sur la communication. On va peut-être terminer cette émission avec Odile, Odile Drouilly pour quelques secondes et puis celle qui était à l'origine, on la retrouvera à la fin, Hélène Buisson. Qui va être intéressée, comment on y vient, comment ça se passe pour le public qui nous écoute et je crois que vous avez beaucoup insisté sur le fait que les uns et les autres, que le public doit être impliqué dans cette exposition. C'est un témoignage important pour vous.
Oui, c'est bien pour ça qu'on a décidé d'articuler cette exposition en deux lieux différents, comme vient de l'expliquer Ambroise. Le potager est un lieu ouvert au public, gratuit, un lieu auquel on peut venir se reposer, méditer, se promener en famille. Et cette exposition photographique, elle peut être appréhendée à tous les niveaux. C'était important pour nous d'avoir ce contact avec le grand public et de ne pas rester dans une approche un peu d'initié, dans un musée, avec aussi peut-être une barrière tout simplement quelquefois économique, parce qu'il faut souvent payer malgré tout une entrée. Voilà. Et important aussi d'expliquer auprès de ceux que la démarche intéresse sur le fond, au travers du making-of qui est présenté dans les communs du château, vraiment l'ambition et le déploiement de cet observatoire. Aliette vient de parler de la densité de la programmation. Je voulais juste justement en profiter pour dire que le CAU du Val-d'Oise propose jusqu'au mois de septembre des ateliers spéciaux jeunes publics. Donc les enseignants peuvent inscrire leur classe et on propose une sorte d'escape game, enfin de jeu autour des photos. Qui s'appelle Enquête de scène et qui donc s'adresse aux élèves du CM1 aux collégiens. Voilà.
Mais ça, c'est pour la rentrée, alors ?
Non, il y en a déjà eu un hier, sous la chaleur, mais voilà, à la fois un jeu qui permet aux enfants de regarder attentivement les photos, de chercher des détails et de progresser dans la découverte du parcours le long de la scène.
Alors, ça pourra intéresser sans doute les animateurs des centres de loisirs puisque ça va être bientôt les vacances, mais comme les l'exposition dans le jardin potager du château de la Roche-Guyon se déroule jusqu'aux journées du patrimoine 18 et 19 septembre. Ça sera pour la rentrée sans doute une très belle occasion de sortie. Je voudrais donner la parole à Hélène Buisson qui a été à l'initiative de ce grand projet dont on a largement parlé. Est-ce que vous êtes contente du résultat puisque entre ce qui était prévu il y a 3 ans, est-ce que vous voyez aujourd'hui Hélène Buisson?
Ah oui, je suis ravie parce que tout le monde a parfaitement joué le jeu. Et puis, on a pu déployer dans tous les territoires, à la fois à la Biennale pour un public extrêmement ciblé et puis au plus près des habitants. On est mi-juin, il y a déjà 10 000 personnes qui ont déjà vu les travaux. Donc c'est un succès. Enfin, il reste encore pas mal de mois. Donc c'était un pari fou parce que je vous dis pas la rapidité avec laquelle on a dû faire tout ça et donc on a réussi, on a une très belle équipe avec des compétences réparties sur plusieurs structures et on a relevé le défi et on est ravis.
Eh ben, formidable. En plus, il se trouve qu'à la direction du château de la Roche-Guyon, vous avez Marie-Laure Adjet qui doit être toujours très dynamique et très partie prenante de tels projets. Alors, un grand merci à vous cinq. Je remercie Odile Drouilly, je remercie Hélène Buisson, je remercie Aliette et je remercie les excellents photographes pour les les images qu'ils nous donnent à voir, Jérémy Léon et Ambroise Cézenas. Je remercie aussi, bien sûr, Francky qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles émissions entre chiens et loups avec de nouvelles rencontres. Vous venez nombreux au château de la Roche-Guyon. C'est une très belle balade le long de la Seine. Et tout le long de la Seine, prenez aussi vos photos. À bientôt. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM.